Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, les policiers seront bien équipés de lanceurs de balles de défense demain lors des manifestations de Gilets jaunes. Le Conseil d'État rejette la demande de suspension de ces armes controversées. Nous entendrons les arguments du Conseil d'État, la réaction d'un manifestant. Est-ce que ces armes sont réellement indispensables au maintien de l'ordre public en ce moment? L'invité du journal de 13h est le spécialiste du maintien de l'ordre public, Sébastien Rocher. Adieu Michel Legrand, entre église orthodoxe, théâtre Marigny et cimetière du Père Lachaise, les admirateurs et proches se rassemblent une dernière fois.
C'est très important pour moi d'être là parce que c'est ma façon à moi de le remercier pour toutes ces heures passées à l'écouter, pour tous ces films, toutes ces larmes, tous ces rires, et c'est pour ça qu'on est là.
Julien au micro de Jacqueline Pétros, nous entendrons également une admiratrice tout à l'heure. Les Bleus du rugby ont besoin d'amour avant France-Galles ce soir, début du tournoi des 6 nations. Besoin aussi de résultats et de confiance à 8 mois de la Coupe du Monde. Dans ce journal encore, près de 800 kilos de viande avariée importée en France de Pologne. Une partie déjà retrouvée et identifiée, reste 650 kilos sur lesquels on espère en apprendre plus dans la journée. Le procès de Medine Mouche à Bruxelles, au cœur de l'audience, les rires de l'accusé lors de sa garde à vue. Le budget de la recherche va-t-il augmenter? Édouard Philippe, le Premier ministre, n'a pas laissé beaucoup d'espoir aux scientifiques ce matin. Sophie Bécherel était là pour suivre son discours. Le temps, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore perturbé dans l'Est, Élodie.
Et oui, du vent fort, de la neige en abondance sur les Alpes, en vigilance orange pour les avalanches, de la pluie soutenue sur l'extrême sud-est, la Corse du Sud est en vigilance orange. On attend également de fortes vagues sur le Var, les Alpes-Maritimes, la Corse du Sud, et puis ailleurs un ciel d'averse dans une ambiance plus douce, ça c'est la bonne nouvelle.
Ajoutons pour ceux qui prennent le train aujourd'hui qu'à Montparnasse, un retour à la normale est annoncé après la journée de galère d'hier. J'ai testé pour vous chaque vendredi dans ce journal de 13h. Cette semaine, Philippe Lefebvre teste quelques nouveautés à la rubrique Fitness. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Pour le 12e samedi de manifestation demain, les Gilets jaunes auront face à eux des policiers armés de lanceurs de balles de défense. Le Conseil d'État rejette la demande de suspension de l'usage de ces armes dites intermédiaires. Les arguments du Conseil dans un instant avec Corinne Audouin. D'abord, parole à un manifestant blessé, lui, par une grenade lors de l'acte 2 des Gilets jaunes. Il s'appelle Antonio Barbetta, il a 40 ans et il est administrateur d'une page Facebook France Blessée. C'est aussi l'un des responsables de la marche blanche demain pour réclamer la fin de ce que les organisateurs appellent les violences policières qui mutilent.
Nous sommes vraiment choqués de ce qui vient de se dire au Conseil d'État, puisqu'on demande également l'interdiction immédiate de tout ce qui est grenade de type GLIF-4, qui, encore une fois de plus, comporte 25 grammes de TNT dans chacune. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment une arme classifiée de guerre, et ainsi que tous les flashballs type LBD-40. Il autorise effectivement de mutiler, de détruire des vies contre des citoyens qui, encore une fois de plus, sont dans la rue depuis le 17 novembre, non pas pour aller casser des vitrines, mais tout simplement, encore une fois de plus, pour crier la souffrance qu'à l'heure d'aujourd'hui, depuis plusieurs années déjà, le peuple vit. La France est un des seuls pays à utiliser ce type d'arme dite non létale. Donc oui, ils auraient dû effectivement interdire immédiatement cette arme-là, puisqu'il y a énormément de témoignages qui prouvent que ces armes-là sont utilisées à mauvais escient. La brigade anticriminalité utilise cette arme-là comme on peut utiliser un pistolet à mousse pour des gamins de 14 ans, voilà, tout simplement. On est carrément outrés, choqués, enfin voilà, ouais.
Voilà pour les arguments de ce militant interrogé par Thibault Lefebvre. Réaction du côté de la police, SGP, police force ouvrière, parle d'un soulagement après la décision du Conseil d'État. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Bruno.
Avec vous, le détail des arguments du Conseil, sachant que la CGT et la Ligue des droits de l'homme demandaient la suspension en urgence.
Oui, le rejet de la demande s'appuie d'abord sur l'existence de conditions strictes d'utilisation des lanceurs de balles de défense. Les agents qui l'utilisent doivent être habilités. Des précautions existent, prendre en compte la distance de tir, la mobilité de la personne, ne jamais viser la tête, mais privilégier le torse. Enfin, le LBD doit être utilisé de façon nécessaire et proportionnée. C'est dans la loi. Alors certes, le Conseil d'État constate que l'usage du LBD a provoqué récemment des blessures parfois très graves, sans qu'on soit certain qu'à chaque fois le LBD a été utilisé de façon justifiée. Mais pour les juges, il n'est pas démontré que ce non-respect des règles d'usage aurait été décidé intentionnellement par les autorités. De plus, les manifestations de ces trois derniers mois ont été fréquemment l'occasion d'actes de violence et de destruction dont on ne peut exclure qu'ils se reproduisent, écrivent les magistrats. Il est donc nécessaire de permettre aux forces de l'ordre de recourir à ces armes, parfaitement appropriées dans ce type de situation, sous réserve du strict respect des conditions de leur usage, conclut-il. Alors le débat n'est pas clos, c'était une demande en urgence. La Ligue des droits de l'homme va déposer aujourd'hui même un recours au fond qui sera examiné dans un délai maximum de 3 mois.
Bonjour Sébastien Rocher.
Bonjour.
Invité de ce journal de 13h en duplex de Lyon, vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la police, auteur de cet ouvrage de la police en démocratie paru chez Grasset en 2016. En droit, le Conseil d'État avait-il des arguments pour interdire en urgence les lanceurs de balles de défense ?
Pas véritablement. En tout cas, je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Et le Conseil d'État, ce qu'il dit, finalement, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il y a des lois en France. Eh bien, ces lois doivent être respectées. Or, ces lois autorisent le LBD sous certaines conditions d'usage. Et comme le gouvernement n'avait pas de mauvaises intentions donc de les utiliser hors du cadre de la loi, il n'y a pas de raison de les interdire. Voilà où on en est. Donc, il n'y a pas pour moi vraiment à ce stade de discussion profonde sur ce que ça veut dire d'autoriser des armes qui mutilent dans une démocratie. Donc ce débat-là n'a pas encore eu lieu, mais je pense que c'est un débat qui commence à se former.
L'argument du gouvernement, c'est de dire qu'en ce moment particulièrement, cette arme est indispensable au maintien de l'ordre, indispensable pour maintenir à distance des manifestants, des casseurs, voire pour aller au contact sans utiliser d'armes qui tuent. Quelle est votre analyse sur cet argument-là ?
Je ne suis pas vraiment convaincu par cet argument. Il suffit de sortir de France pour voir que ces armes ne sont pas indispensables au maintien de l'ordre, puisqu'en Europe, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Autriche l'interdisent. Donc ces pays connaissent des manifestations importantes, connaissent des groupes violents de type Black Bloc ou extrême gauche, mais la différence, c'est l'interprétation qu'ils ont, si vous voulez, quelle est la morale d'État, quelles sont les valeurs morales sous-jacentes à la loi. C'est ça qu'on trouve dans les constitutions, dans les textes fondateurs. Et pour eux, si vous voulez, il y a une matrice culturelle qui valorise les droits de l'homme plus que c'est le cas en France. Donc, au nom de ces droits fondamentaux, eh bien, la police n'est pas autorisée à s'équiper avec ce type de matériel. Donc, c'est vraiment un débat politique qui est sous-jacent à ce dont on est en train de parler.
On comprend bien l'aspect. C'est un choix politique, un choix culturel. Après, sur le terrain, sans ces armes, comment font-ils face à des manifestants qui veulent s'approcher, qui peuvent être violents? C'est des canons à eau. Très concrètement, de quoi disposent-ils?
Si vous voulez, la technique est un choix qui est subordonné aux valeurs. C'est ce qu'on voit avec les comparaisons européennes. Et je pense que c'est dommage de se dire qu'il n'y a pas d'autres solutions techniques. Alors, on voit bien que les autres pays en trouvent. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de solutions, de mise à distance.
Lesquelles?
Les canons à eau ont été cités. Le meilleur également guidage des manifestations, le fait d'éviter de créer des nasses, par exemple, de rendre les gens furieux, d'éviter d'utiliser contre les LBD qui ensuite motive un désir de revanche. Donc, faut pas non plus créer de la violence par la manière dont on gère la manifestation. Et puis, il y a des techniques de préparation. On a l'impression qu'en France, les renseignements généraux, aujourd'hui le renseignement territorial, n'a pas estimé correctement la nature des protestations. Il faut se souvenir qu'on avait quand même bien souvent plus de policiers et de gendarmes que de manifestants dans la rue. Donc il y a quand même un problème de conception du maintien de l'ordre et pas juste des outils qu'on va employer.
Sébastien Rocher, une question de Corinne Audouin.
Oui, monsieur Rocher, est-ce que on comprend bien qu'il faudrait, selon ce que vous dites, changer complètement la doctrine du maintien de l'ordre? Dans l'urgence, on imagine qu'on ne peut pas retirer comme ça du jour au lendemain le LBD. Les policiers risquaient de se trouver désarmés physiquement, mais aussi moralement, de ne pas savoir comment faire. Qu'est-ce que vous préconiseriez?
Bien sûr, je suis complètement d'accord avec ça. Si vous voulez, moi je comprends les policiers qui disent on se sent tout nu. Quand on a conçu une doctrine et qu'on l'a orienté vers la confrontation, et qu'on a équipé les policiers avec des armes qui leur donnent une supériorité en termes de capacité de blessure, si vous leur enlevez, c'est complètement logique de se sentir démuni. Donc on ne peut pas modifier du jour au lendemain la manière dont on fait le maintien de l'ordre en France. C'est pour ça que c'est dommage que la France ne se soit pas engagée dans la réforme des doctrines. C'est pour ça qu'elle n'est pas, depuis plus de 10 ans, 15 ans, au contraire d'autres pays européens, qu'elle n'est pas réfléchi à la manière de faire. Parce que c'est vrai qu'en plein milieu d'une crise, on ne peut pas. Et le ministre de l'Intérieur ne peut pas s'offrir un conflit avec les organisations syndicales, en plus du conflit avec les Gilets jaunes. Il est complètement bloqué, donc il ne peut pas proposer de changement.
Merci Sébastien Rocher d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle les références de votre dernier ouvrage, De la police en démocratie, paru chez Grasset en 2016. Et à propos de cet acte 12 des Gilets jaunes ce week-end, parmi les villes où les manifestants pourraient être nombreux, il y a donc Valence dans la Drôme. Déjà toute une série de mesures de sécurité sont prises. Appel à une marche régionale à Valence sur Facebook.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Alors que l'affaire des lasagnes à la viande de cheval est au menu du tribunal correctionnel de Paris en ce moment, une nouvelle affaire de gros ratés dans le suivi à la trace de viande. Près de 800 kilos de viande de bœuf avariée en provenance de Pologne sont arrivés jusqu'en France. 9 entreprises de l'agroalimentaire, entreprises de transformation ont été dupées. Fraude terrible, dit-on au ministère de l'Agriculture qui donne quelques détails ce matin. La viande est-elle allée au-delà de ces entreprises? Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Que sait-on à 13h10 de cette histoire?
Eh bien, on attend toujours à l'heure qu'il ait des nouvelles du ministère qui avait promis de nous rappeler ce matin. Ce que l'on sait, Bruno, c'est que 150 kilos de cette viande ont apparemment déjà pu être récupérés dans les entreprises concernées. Reste donc 650 kilos dont on ignore s'ils sont partis dans le commerce ou s'ils peuvent encore se trouver dans des frigos. D'après les autorités polonaises, en fait, des vaches malades ont été abattues dans un entrepôt en Pologne à l'insu et sans le feu vert des vétérinaires. Elles ont ensuite été entassées dans des camions en direction plusieurs pays, dont la France. La France qui importait, ça c'est pour assurer, en 2015, chiffre qui date un peu mais quand même, 348 millions de tonnes de viande bovine par an. On est donc loin, très loin des 800 kilos concernés aujourd'hui. Qui plus est, lorsqu'on importe de la viande chez nous, celle-ci arrive principalement des Pays-Bas, d'Allemagne ou encore d'Irlande, nous précise la filière, qui sont donc les trois pays donc où la France s'approvisionne le plus. La Pologne n'arriverait que loin derrière, ce qui n'empêche, l'affaire est prise au sérieux par le ministère dont on attend donc les précisions dans cette affaire.
Et par la Commission européenne qui ouvre une enquête, puisque c'est près de 3 tonnes en tout de viande polonaise avariée qui sont sorties vers 12 pays de l'Union, la France mais aussi l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne et la Suède. Pour l'organisation Foodwatch, sur le marché de la viande, il y a des problèmes persistants de traçabilité, pas assez de transparence, trop d'intermédiaires, trop de sentiments d'impunité. Quelles sont les ambitions du gouvernement pour la recherche française si importante dans l'époque de bouleversement technologique que nous vivons? Quelle ambition pour la recherche? Eh bien, on cherche. Pas de discours fondateur, près de 2 ans après le début du quinquennat. Il y avait une occasion ce matin, les 80 ans du CNRS, le premier organisme français public dans ce domaine. Le Premier ministre est venu et Sophie Bécherel, il dit aux scientifiques qu'il ne faut pas compter sur des augmentations de budget.
En effet, le message peut se résumer ainsi, faire mieux à moyens constants. Raymond Aron, Jean Perrin, Jean Zay, Joliot Curie, le Premier ministre n'a pas été avare de références ce matin, soucieux de faire le lien entre science et politique. Parce que gouverner c'est choisir, a-t-il rappelé, il demande à la ministre de la Recherche, Frédérique Vidal, de mettre en chantier l'élaboration d'une loi de programmation pluriannuelle pour la recherche. Écoutez Édouard Philippe.
Notre ambition, c'est que la France devienne l'un des pays les plus attractifs au monde par l'excellence de son accueil et de sa recherche. Que nous ne manquions pas les virages décisifs de l'économie de la connaissance. L'objectif de cette loi de programmation pluriannuelle, c'est d'engager dans la durée les transformations dont notre recherche a besoin pour être au rendez-vous de cette ambition et de vous donner à vous du temps, des moyens et de la visibilité. Je ne crois pas que nous puissions nous contenter du statu quo et je compte sur vous d'abord pour faire des choix et dessiner ce qui est le plus important, ce sur quoi nous devons mobiliser nos moyens. Nous avons besoin que vous vous prononciez sur ce sujet.
Y aura-t-il des disciplines sacrifiées? Faudra-t-il renoncer à financer certains équipements? Ce sera donc aux chercheurs d'en décider. Les propositions sont attendues d'ici la fin de l'année. Le temps de voter la loi, elle ne pourra s'appliquer qu'en 2021, soit un an avant la fin du quinquennat. L'organisme qui emploie 11 000 chercheurs a d'ores et déjà cette année décidé de recruter 50 personnes en moins. Pourtant, Édouard Philippe affirme qu'il faut accorder plus d'attention aux jeunes talents, être attractif vis-à-vis des étrangers. Il a demandé au CNRS d'aller chercher plus de financement auprès de l'Europe, de se rapprocher des entreprises et enfin de prendre part au grand débat.
Moins de la moitié des stocks de poissons sont exploités durablement dans les eaux françaises, c'est-à-dire pêchés dans des conditions qui permettent leur reproduction. Bilan ce matin de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'Ifremer. Moins de la moitié, évité en particulier le merlu de Méditerranée et le cabillaud de Manche. C'est en Méditerranée que la situation est la plus préoccupante. 6% seulement des stocks de poissons sont pêchés correctement. Veille de manifestation et d'anniversaire au Venezuela. Il y a 20 ans, 2 février 1999, Hugo Chavez Chavez prenait le pouvoir à Caracas. Mais les années fastes sont loin. Le 2 février cette année sera marqué par une nouvelle série de manifestations, appel lancé par le président autoproclamé Juan Guaido. Fera-t-il basculer l'armée? Va-t-il convaincre un peu plus l'Union européenne, en particulier de le soutenir? 6 pays européens, dont la France, donnent à Nicolas Maduro, le président élu, et contesté jusqu'à dimanche pour organiser de nouvelles élections. Il faut un nouveau scrutin. C'est l'appel d'une des voix de l'opposition au micro de l'envoyé spécial de France Inter au Venezuela, Olivier Pujade. Enrique Capriles, c'est celui qui avait perdu les élections face à Chavez puis Maduro en 2012.
Pourquoi Maduro ne veut pas de ces élections? Parce qu'il va les perdre. Donc son jeu n'est pas démocratique. Son jeu, c'est de s'accrocher au pouvoir par la force. Celui qui est en train de résister en utilisant la force, c'est Maduro. Les États-Unis n'ont jamais dit qu'ils souhaitaient une intervention militaire. Ils n'écartent pas ce scénario de mise sous pression. Il ne faut pas oublier que le problème vénézuélien est un problème pour toute la région, à cause des déplacés. On parle de 5 millions de personnes. Donc cette situation, cet isolement, ces sanctions, cette escalade, cette pression, si demain Maduro accepte une nouvelle élection, tout est fini.
Voilà pour les propos d'Enrique Capriles au micro de l'envoyé spécial de France Inter au Venezuela, les 20 ans donc de l'accession de Chavez au pouvoir demain, et en Iran aujourd'hui les 40 ans du début de la révolution islamique. 1er février 79, l'ayatollah Khomeini rentrait dans son pays après un long exil en France notamment. Des milliers de personnes étaient rassemblées autour de son mausolée ce matin à Téhéran. Il est accusé d'être un terroriste, auteur de 4 assassinats. L'enquête est accablante pour lui. Nouvelle audience au procès de Mehdi Demouche ce matin, après la tuerie au musée juif de Bruxelles. On a projeté ce matin les images de sa garde à vue en France, puisqu'il avait été arrêté à Marseille après plusieurs jours de cavale au printemps 2014. Angélique Bouin, vous suivez l'audience pour France Inter à Bruxelles. Angélique.
Je ne répondrai à aucune question. Dès son premier interrogatoire par la section antiterroriste, Mehdi Nemouche donne le ton. Il ne variera quasiment plus jamais. Arrêté la veille dans un bus en possession des 2 armes du crime, le jeune homme est en costume sur la vidéo, rasé de près, calme et courtois. « Les armes retrouvées dans votre sac ?» demande l'enquêteur. « Je m'expliquerai en temps voulu », dit-il. Le policier insiste. Son refus de parler est entrecoupé de francs sourires. « Les avez-vous utilisés pour tuer des gens au musée juif ?» L'homme, avachi sur sa chaise, se crispe légèrement. « Je fais valoir mon droit au silence. » Audition suivante, vidéo suivante, celui qui est devenu entre-temps le principal suspect de l'attaque du musée juif rit beaucoup, s'esclave même face à la répétition des questions. Et pour éviter de répondre droit au silence, le voilà qui répond « Das, das » 59 fois sur 60. « Avez-vous bénéficié de complicité pour obtenir les armes ? Aucune, lâche-t-il enfin. Vous vouliez une réponse, en voilà une. » Est-ce l'attitude d'un homme accusé à tort, selon lui, de 4 assassinats terroristes, demande alors au juré l'accusation. Et les armes? Nous sommes le 1er février 2019, on attend toujours une explication. Quelle que soit l'attitude de mon client, ce sera toujours interprété à charge, a conclu l'un des avocats de la Défense. Au Palais de Justice de Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
En France, il y a toujours 4 millions de mal logés. La Fondation Abbé Pierre publie son rapport 2018. Pour les détails, vous pouvez réécouter Christophe Robert, le délégué général de la Fondation, qui était ce matin l'invité de Mathilde Munoz. C'est sur franceinter.fr. Le jour de ce rapport, le gouvernement donne d'autres chiffres, quelques 70 000 personnes sans domicile ont trouvé un logement durable l'an dernier. Voilà, bilan du gouvernement. Ne jetez pas vos tickets restaurant 2018. Ils sont périmés, vous ne pouvez plus les utiliser. C'est vrai à partir d'aujourd'hui, mais Action contre la faim les récupère jusqu'au 31 mars pour faire une bonne action. L'association transforme ses titres en dons. L'opération Je Déj, Je Donne, elle fête ses 10 ans. Record l'an dernier, en 2018, donc Action contre la faim a récolté plus de 600 000 euros de titres restaurants périmés. Sonia Gobry.
Aller au restaurant, fouiller son sac, ses poches et s'apercevoir que les tickets restaurants sont restés à la maison, ça arrive souvent à Julie.
Et on arrive à cette période proche de la nouvelle année où on se rend compte qu'on en a plein, qu'il faut les écouler et on ne sait pas comment.
Julie se retrouve aujourd'hui avec une dizaine de chèques restaurants périmés. Elle les donne à Action contre la faim grâce à son entreprise Kelley Consulting. 1400 euros donnés par les salariés l'an dernier. Une somme doublée par leur employeur Pierre Guimard.
On trouvait sympa de faire en sorte que les gens aurait encore plus envie de donner et nous-mêmes de se positionner comme un acteur de la générosité.
L'association Action contre la faim envoie une urne dans les entreprises et des reçus fiscaux. Sans ça, Julie n'aurait peut-être pas donné.
Vous n'avez pas à faire d'efforts supplémentaires. Derrière, oui, j'ai été sensibilisée à leurs actions parce que je viens de Madagascar. Et je sais qu'ils agissent énormément là-bas comme dans les autres pays où de nombreuses crises émergent, des crises alimentaires notamment.
Et pour l'ONG humanitaire, ces dons sont loin d'être marginaux. Vincent Créalet, directeur de la collecte des dons auprès des particuliers.
La collecte de titres restaurants nous permet d'observer une croissance de notre collecte de fonds, ce qui n'était pas forcément prévisible quelques mois auparavant.
Des tickets restaurants qui compensent la baisse des dons traditionnels, moins 7% l'an dernier.
Et pour celles et ceux qui ont un titre restaurant dématérialisé, sachez que vous pouvez faire vos dons sur le site internet d'Action contre la faim. C'est un jour à prendre un parapluie comme à Cherbourg, pas vraiment à danser comme à Rochefort. Adieu Michel Legrand, adieu à la cathédrale orthodoxe de Paris avant le théâtre Marigny tout à l'heure et puis l'inhumation au cimetière du Père Lachaise. Parole d'admirateur, d'abord cette dame qui s'appelle Gudrun.
C'est vraiment pour rendre un hommage à Michel Legrand. Et j'ai lu qu'il avait une peur noire de la mort, le pauvre. J'ai lu ça dans un petit reportage. C'était un homme que j'admirais beaucoup. J'adore les films. Je suis vraiment de cette génération. La gaieté, la joie de vivre, le bonheur simple. Voilà, c'est tout. Mais vraiment, je suis là pour lui rendre hommage.
Lui aussi est admirateur. Il représente une autre génération. On l'entendait dans les titres. Toujours au micro de Jacqueline Pétros. Il s'appelle Julien.
Pour moi, il est quelqu'un de très important, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué ma vie, qui continuera à la marquer, j'en suis sûr, parce qu'on ne peut pas rester insensible à sa musique, on ne peut pas ne pas la comprendre, c'est tellement inné, on le ressent juste tout simplement. C'est complexe, en même temps tragiquement simple, c'est des thèmes que tout le monde est à même à analyser, à comprendre et à être touché. Et c'est très important pour moi d'être là parce que c'est ma façon à moi de le remercier pour toutes ces heures passées à l'écouter, pour tous ces films, toutes ces larmes, tous ces rires et c'est pour ça qu'on est là.
Voilà, et vous aurez saisi que nous étions près de la cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre Nevski à Paris. Tout à l'heure donc l'hommage public et musical au théâtre Marigny où on joue Podane en ce moment. Puis l'inhumation à 16h30 au Père Lachaise. Quelle est la dernière fois que l'équipe de France de rugby vous a vraiment fait vibrer? Ces coqs dont on aimait la vista, les victoires et le style ont durablement perdu leurs plumes, leurs crêtes et leurs chants. Et s'ils repartaient de la bonne patte ce soir, 21h, coup d'envoi du tournoi des Six Nations 2019 face au Pays de Galles, Jacques Brunel, l'entraîneur du 15 de France, donne les ingrédients du match.
On espère surtout se montrer à la hauteur de l'enjeu, à savoir un premier match du tournoi. À domicile, une équipe de Galles qui est en confiance, indéniablement. Des conditions de match qui peut-être seront pas très très bonnes, donc il va falloir peut-être s'adapter à tout ça. Mais une équipe de France dont on attend beaucoup, qui aura sans doute des difficultés à briser cette défense. Donc ce sera le test, et il faudra sans doute être fort aussi moralement, parce que c'est pas possible que cette équipe de Galles cède rapidement, c'est pas possible.
Ben oui, fort moralement, car il faut retrouver la victoire. Il est temps de s'y mettre. Jérôme Val, dans 8 mois, il y a la Coupe du Monde de rugby au Japon. Les autres Européens sont en avance sur nous, Jérôme.
L'Irlande, le Pays de Galles ou encore l'Angleterre ont au moins un avantage sur le 15 de France, en plus d'être meilleurs. Ils peuvent se payer le luxe de voir au-delà de ce tournoi et de penser déjà à la Coupe du Monde. Les Bleus abordent cette année 2019 dans le flou, sans certitude, alors le Mondial, autant ne pas y penser. Pour le troisième ligne, Louis Picamol.
On est dans une situation, on n'a pas cette marge de se projeter aussi loin que la Coupe du Monde. Je crois que depuis qu'on s'est rassemblés, on n'a abordé qu'un sujet, c'est le match de vendredi soir et cette équipe du Pays de Galles.
Voilà un horizon bien court pour des Bleus qui n'ont gagné que 8 de leurs 11 derniers matchs et qui stagnent à la 9e place de la hiérarchie mondiale. Dans ce tableau bien sombre, même les cadres ne veulent pas se mouiller pour savoir s'ils seront bien du voyage au Japon. Le demi de mêlée, Morgan Parra.
Ça serait la plus belle bêtise aujourd'hui de penser déjà à l'après et de jouer la carte personnelle. C'est important. C'est de jouer collectivement, d'essayer de trouver les repères, de gagner ensemble. Si on gagne, on aura plus de chances d'aller en Coupe du Monde ensemble.
Les Bleus ont aujourd'hui besoin de résultats, de confiance, de stabilité. Seuls 3 joueurs qui ont participé à Galles-France l'an passé seront titulaires ce soir. À ces conditions seulement, ils pourront se projeter sur ce mondial asiatique.
En France-Galles, 21h au Stade de France ce soir. Demain, Écosse-Italie, puis Irlande-Angleterre. En football, c'est la 23e journée de championnat. Lille-Nice ce soir en ouverture et dimanche, Lyon PSG. J'ai testé pour vous chaque vendredi dans ce journal de 13h. Cette semaine, Philippe Lefebvre a testé deux nouveautés pour les feignants qui veulent perdre du poids sans effort démesuré. Électrostimulation, plateau mobile, ces techniques infiltrent de plus en plus les salles de fitness. Deux exemples pour le premier, direction le quartier des affaires à Paris. Au boulot, Philippe.
Alors nous sommes dans une salle située sous une tour de la Défense et deux clients sont en train de tester ce que l'on appelle le FitWave. C'est une machine 100% française.
Le point vert, en fait, c'est votre point d'équilibre.
Alors Benoît, on est devant une machine qui ressemble à un monstre issu d'un film de science-fiction. C'est quoi cette machine ?
C'est un appareil qui avait été développé initialement pour la rééducation. Et en fait, on va mettre, vous voyez, grâce au plateau hélisphérique, le corps en mouvement et en déséquilibre. Vous allez le voir, donc du coup, au cours de la séance.
Eh ben, c'est ce qu'on va voir.
C'est parti.
Bon, là, ça tangue, j'ai l'impression d'être sur un bateau, c'est normal ?
Oui, c'est normal. Et le mouvement en fait, sphérique que vous avez, en fait, il reprend le mouvement des articulations. Donc, il n'y a pas de choc, pas d'impact.
Il y a combien de temps qu'on a commencé ?
On a commencé il y a un quart d'heure.
Alors, j'ai l'impression d'avoir déjà passé une heure à faire du sport, c'est quoi, c'est normal ?
L'instabilité du plateau, que ce soit sur la phase de travail ou la phase de récupération, va augmenter l'intensité des exercices. Raison pour laquelle les séances durent 25 minutes, ce qui est l'équivalent d'une heure et demie de séance.
Ça fait perdre du poids ?
Au bout de 8 séances, on commence déjà à ressentir une perte de poids significative.
Combien ?
C'est bien. On peut déjà partir sur 2 à 3 kilos.
Et à peine descendu de ce plateau, je vais essayer une autre technique. La Q8, en fait, c'est de l'électrostimulation.
Donc là, on va vous mettre une combinaison où vous avez une vingtaine d'électrodes. Et là, toutes les zones musculaires sont sollicitées et sont travaillées par ces électrodes.
Eh ben, on va essayer.
Alors,
ça se porte comme, dans quel sens ?
On va vous humidifier au démarrage. On va, dans un premier temps, vous mettre en position. On doit sortir de la zone de confort. Donc, il faut que ce soit à la limite du désagréable. Il ne faut pas que ça fasse mal, mais il faut que ce soit à la limite du désagréable.
C'est assez incroyable. C'est une sensation qui est à la fois étonnante parce qu'on a l'impression d'avoir du poids sur soi, ce qui n'est pas le cas, et puis aussi d'avoir plein de petits picotements. 20 minutes de sport, enfin 20 minutes avec cette technique-là, ça représente combien de sport classique ?
Ça correspond à peu près 3 heures de sport classique.
Alors, on sent très vite les effets. Du point de vue physique, c'est efficace. Attention toutefois aux courbatures du lendemain. Côté prix, comptez de 30 à 45 euros la séance selon les techniques utilisées. Et oui, l'efficacité a un prix.
Et encore deux petits chiffres que me donne Philippe Lefebvre. Plus de 5 millions, près de 5 millions et demi de Français sont inscrits dans une salle de sport. Le tarif moyen est de 41 euros par mois.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac.
On retrouve notre perturbation dans l'Est avec de la pluie, beaucoup de vent, de la neige en montagne. Il neige en abondance sur les Alpes où la vigilance orange avalanche est en place. Sur l'extrême sud-est, on surveille les vagues. La Corse, le Var, les Alpes-Maritimes sont en vigilance orange. Les vagues s'intensifient au fil des heures. On surveille aussi la pluie. La Corse du sud est en vigilance orange. On attend jusqu'à 80 à 120 mm de pluie, voire 150. Et puis sur le reste du pays, pas mal de nuages, quelques averses plus nombreuses et orageuses sur le tiers ouest. On trouve plus d'éclaircies du Pays Basque au Roussillon. C'est plus doux, 5 à 10 degrés aujourd'hui, 11 à 15 de l'Aquitaine à la Méditerranée. Demain, il faudra encore composer avec les nuages et les averses.